l'histoire du secours en montagne, proposé par Mountain Pass.
Mountain Pass, une passerelle entre l'univers de la montagne et le monde de l'entreprise.
Learn from altitude.
Learn from altitude, prêt à décoller, c'est parti, 5 sur 5.
Jean-Vincent Don et François Henry sont des alpinistes passionnés, dans la fleur de l'âge. Leur grand projet, gravir en hiver les ponts de la Brimbe sur le versant italien du Mont Blanc. Au lendemain de leur départ, le 24 décembre 1956, le ciel est voilé. Inquiets et raisonnables, ils décident de faire demi-tour. Mais le destin décide autrement. Sur le chemin de leur retour, ils croisent le célèbre guide Walter Bonatti. Réconfortés, Vincent Don et Henri retournent à leur projet. Mais une journée a déjà été perdue. À 2h30, le 25 décembre 1956, les quatre alpinistes quittent l'abri minuscule vers leurs objectifs respectifs. Les premières pentes de neige sont chargées et ralentissent la progression. Alors que le temps se dégrade, Bonatti constate qu'il est en retard et rejoint les ponts de la Brimbe empruntés par Vincent Don et Henri. En moins d'une heure, la tempête s'abat sur eux, les contraignant à bivouaquer. La nuit est épouvantable, deux des alpinistes ont des débuts de gelure aux pieds. Il faut coûte que coûte sortir de ce traquenard. Bonatti est en tête, Vincent Don ferme la marche. Après des heures d'efforts, les voici au col de la Brimbe à 4303 mètres d'altitude. Deux solutions sont alors possibles. Soit descendre directement vers Chamonix par des pentes exposées aux avalanches et un glacier tourmenté, soit remonter péniblement vers le sommet du Mont Blanc pour rejoindre le refuge-abri Valo par l'arête des Bosses. D'un commun accord, les alpinistes décident de prendre cette dernière option, plus sûre mais plus éprouvante physiquement. Mais finalement, les deux cordées vont se séparer. C'est le moment où le drame se noue. Vincent Don et Henri vont errer pendant des heures, épuisés, incapables de franchir le sommet du Mont Blanc. Ils seront localisés le 27 décembre à 13h45 au-dessus des Rochers Rouges à 4550 mètres à l'aide d'une longue vue.
On voit les trucs.
Leur démarche est hésitante. Le second tombe tout le temps.
Putain, merde ! Viens me tirer !
Progressivement, la cordée rejoint non sans mal le bord du grand plateau après une nouvelle nuit de bivouac. Désormais, ils ne bougeront plus. Les guides refusent de s'engager dans ce secours périlleux. Lionel Terray, lui, refuse cette décision et décide de s'engager contre l'avis du comité pour tenter le sauvetage des deux naufragés. En vain. L'importance des chutes de neige rend la progression impossible. Le docteur Dartigues, qui préside la société chamoniarde de secours, décide alors de solliciter les militaires de l'école de haute montagne. Ce tournant dans le secours est décisif. Pour les militaires, une seule option est retenue.
Le secours par voie aérienne avec l'appui des hélicoptères.
Dès le 28 décembre, les hélicoptères sont à pied d'œuvre. Mais encore une fois, les vents sont contraires. Le brouillard cloue les appareils au sol. Jusqu'au 31 décembre, la situation n'évolue pas. Vincent Don et Henri passent leur septième nuit d'agonie au bord d'un immense sérac. Mais ils sont toujours vivants. Le 31 décembre 1956, l'hélicoptère peut enfin décoller. Le commandant Santini est aux commandes et à ses côtés, l'adjudant Blanc, deux héros d'Indochine qui n'ont aucune expérience du vol en montagne. À leur côté, deux guides prennent place, Charles Germain et Honoré Bonnet. L'hélicoptère gagne de l'altitude et s'approche du grand plateau. Encore une fois, le destin va s'en mêler. Le commandant Santini tente de se poser directement à côté des alpinistes, mais l'hélicoptère arrive trop vite, la neige l'enveloppe, l'aveugle, et le crash est inévitable. L'appareil fait un cul par-dessus tête, dans un fracas étourdissant. Puis c'est le silence. Les quatre hommes sortent de la machine broyée, indemnes, incroyables, un miracle. Honoré Bonnet s'approche le premier de Vincent Don et Henri et leur parle. Avec stupeur et émotion, ils découvrent que leurs jambes sont gelées jusqu'au bas-ventre ainsi que leurs bras. Une discussion surréaliste s'engage, pleine d'humanité et d'espérance.
On fera des ascensions ensemble.
Mais le temps presse, la nuit approche. Honoré Bonnet, rejoint par une autre équipe de secours déposée sur le dôme du goûter, décide de remonter le pilote et le mécanicien vers le refuge Valo pour les mettre à l'abri. Il faut se séparer, promettre de revenir. Vincent Don et Henri sont placés dans la carlingue de l'hélicoptère.
On reviendra vous chercher.
Cette promesse, qui ne sera jamais tenue, pèsera sur les épaules des secouristes toute leur vie durant. La caravane se met en route vers le refuge Valo, laissant derrière elle les deux alpinistes abandonnés à leur triste sort. Personne ne reviendra les aider. Leurs corps seront récupérés des mois plus tard.
Learn from altitude. Quelle est la leçon de ce secours pour vivre la montagne aujourd'hui ?
Blaise Agresti, guide de haute montagne, ancien commandant du peloton de gendarmerie de haute montagne et cofondateur de Mountain Pass.
Bonjour Blaise.
Bonjour Jessica.
Donc Vincent Don et Henri ont espéré pendant 9 jours qu'on vienne les chercher. Pouvez-vous nous dire, Blaise, nous décrire leur itinéraire et nous expliquer comment à l'époque s'organisaient les secours dans les années 50 ?
Alors on est effectivement à la fin de ce mois de décembre 1956. Et donc Vincent Don et Henri voulaient gravir le Mont Blanc par le versant italien, par l'éperon de la Brinve. Et ce qui est très particulier dans cette histoire, c'est qu'ils avaient d'abord renoncé. En arrivant au bivouac de la Fourche, donc il y a un petit bivouac qui est perché sur une arête, ils avaient décidé qu'ils n'étaient pas en capacité de faire cette course-là. Donc ils font demi-tour. Et là, ce que disent certains des anciens, l'ange du destin vient à leur rencontre dans la personne de Walter Bonatti, qui effectivement, en les croisant, leur donne l'espérance que d'avoir un alpiniste aussi célèbre que Walter Bonatti, qui était la grande figure de l'alpinisme italien à ce moment-là, qui lui-même allait dans cette direction, finalement, ça les a encouragés à refaire demi-tour et à repartir. Donc, il y a déjà cette première rencontre du destin qui est... voilà, on sent bien qu'on est sur cette arête, sur ce fil étroit de la décision. Est-ce que j'y vais pas? Et ça, c'est quand même le dilemme qu'on retrouve dans toute l'histoire de l'alpinisme. Est-ce que j'y vais ou est-ce que j'y vais pas?
Faire le bon choix.
Effectivement, c'est la question fondamentale que tout alpiniste se pose finalement toute sa carrière. Là, Vincent et Henri avaient déjà fait le bon choix. Ils avaient renoncé. Et ça rend cette histoire encore plus cruelle parce que leur perception de la situation de la montagne, de leurs conditions physiques, les avait encouragés à ne pas y aller. Et c'est simplement ce halo incroyable de la personnalité de Walter Bonatti qui les encourage. Et ça dit une chose toute simple. C'est qu'il ne faut jamais faire ses choix par rapport aux autres en montagne. Il faut toujours s'écouter, évidemment, écouter son compagnon de cordée, mais certainement pas faire comme les autres. Ne pas suivre une trace, ne pas se laisser embarquer par une impression de facilité que d'autres pourraient donner en y allant eux-mêmes. Et là, si on va encore plus loin, ça nous dit que dans ce rapport à la montagne, comme dans notre rapport à la vie, nos choix doivent être avant tout guidés par nos propres critères à nous. Et ça, c'est hyper complexe déjà à mettre en œuvre avec toutes les pollutions qu'on peut avoir, les informations qui nous encouragent, les médias, enfin tous les facteurs d'influence qui impactent nos décisions au quotidien. Donc les deux alpinistes, Vincent Don et Henri, se retrouvent là à attaquer l'éperon de la Brinve à l'insu de leur plein gré, quelque part.
Et donc Blaise, expliquez-nous comment à l'époque s'organisent les secours.
Oui. Alors le secours en montagne, à partir quasiment de la première ascension du Mont Blanc, 1786, Balma et Paccard, on est dans une organisation qui se fait par les hameaux au pied des montagnes. Ce sont des solidarités de montagnards, donc quand il y a un accident, au sommet de la Verte ou au sommet du Mont Blanc, l'information redescend par des guides, des porteurs, des gardiens de refuge qui vont descendre à pied, il n'y a pas de moyen de télécommunication. Et là, la solidarité va s'organiser dans les premiers hameaux. Et quand on regarde les carnets de secours de la Chamoniarde, qui a référencé tous les secours depuis quasiment la première ascension du Mont Blanc, on se rend compte que les cordées de secours, qu'on appelle les caravanes de secours, sont constituées des mêmes habitants d'un même hameau, des Frasserans, des hameaux autour d'Argentière, par exemple, qui allaient vers la Verte, par exemple, porter assistance. Donc c'est comme ça que ça s'organise dans les Alpes, les Pyrénées, pendant presque un siècle, donc 1786 jusqu'à la fin du 19e siècle. Et là va émerger le début du commencement d'une société de secours qui est créée pour la première fois dans le Salève, à côté de Genève, alors pour d'autres raisons qu'on pourra peut-être expliquer plus tard. Mais cette première société commence à organiser et à structurer. Donc c'est autour de ces comités de secours en montagne qui, à partir de 1897, progressivement dans les Alpes, dans les années 20 à Chamonix, dans les années 30 à Grenoble, dans les années 30 aussi dans les Pyrénées, va se constituer des petits comités qui vont acheter du matériel, commencer à réfléchir sur des solutions techniques et qui coordonnent petit à petit les opérations de secours. Mais ce sont principalement des bénévoles ou des guides, des villages, des hameaux, qui vont porter assistance en caravane à pied avant que l'hélicoptère n'arrive. Donc ça, c'est le modèle qui va durer pendant un siècle et demi.
D'accord. Et donc finalement, quand Vincent Don et Henri ont eu besoin de secours, ce jour-là, qui est parti ?
L'histoire de Vincent Don et Henri, elle a lieu dans cette vallée de Chamonix, très particulière parce qu'on a une concentration de guides, à nul autre pareil. Dans les années 50, il y a déjà une école nationale qui forme les guides, il y a une école militaire qui a été créée dans les années 30, il y a la compagnie des guides. Donc on a trois organisations qui se répartissent au fil de l'année les opérations de secours. Donc, dans les années 50, c'est de temps en temps la compagnie des guides, de temps en temps l'école des guides, ou l'école militaire qui assure à tour de rôle, qui se répartit, et parfois qui s'entraide aussi.
Donc c'est qui est disponible ?
C'est à tour de rôle. C'est déjà un tour de rôle qui est organisé dans les années 50. Et la semaine de Noël 56, c'est à la compagnie des guides de faire le secours. Mais ce qui est important aussi de remettre en contexte, c'est que l'été d'avant, la compagnie des guides avait déjà interpellé le sous-préfet de Bonneville en lui disant que eux, vu l'intensité de l'activité en montagne, ils n'étaient plus en capacité d'assurer la mission de secours, qui était faiblement rémunérée, parce que c'était juste les frais occasionnés par le secours. C'était beaucoup de temps, en fait. Hein.
Et beaucoup de risques.
Alors, pas encore. La question du risque n'est pas encore à l'heure du jour. Et c'est purement des questions d'assurance et de rémunération.
D'accord.
Donc, la compagnie des guides de Chamonix, à l'été 56, se met en grève. Premier, on va dire, signal faible de cette histoire Vincent Henry. Donc, ils disent, nous, on n'est plus en capacité de l'assurer. Ils interpellent l'État. Et donc, quand on se retrouve en décembre, donc quelques mois après, avec l'accident de Vincent Henry, enfin, leur disparition dans le Mont-Blanc, la compagnie émet un communiqué de presse, donc au moment où Vincent Noé et Henri disparaissent, un ou deux jours après, la compagnie publie un communiqué de presse en disant « Des alpinistes qu'ils engagent en plein hiver ne pourront compter que sur leur propre secours. » Donc la compagnie se désengage complètement en disant « Nous, si des alpinistes comme Vincent Noé et Henri ont un pépin en plein hiver, c'est comme en Himalaya, vous vous débrouillez. » Donc c'est pour ça que la compagnie des guides ne part pas en mission de secours. Donc il y a plusieurs jours comme ça où il va y avoir un débat à l'intérieur de la compagnie des guides, et notamment Lionel Terré va s'opposer à cette décision et va constituer lui-même une caravane à pied pour essayer de tenter de monter par le grand plateau, refuge des grands mulets, monter à pied. Ils vont se faire repousser par les importantes chutes de neige, les difficultés techniques, etc. Mais ils vont tenter quand même quelque chose, mais de manière en opposition avec le comité de la compagnie qui avait lui pris une position plus large. Donc il y a déjà, dans l'histoire de Vincent Henry, il y a une deuxième dimension, après celle du renoncement à la décision, c'est celle de, finalement, ils viennent dans un contexte très peu favorable, parce que quelques années avant, ils auraient été secourus, quelques années après, ils auraient été secourus, mais là, il y a une espèce de blocage lié à une posture de la compagnie des guides qui est liée à un contexte, là aussi, où ils n'étaient plus en capacité d'assumer la mission, pour des raisons à la fois d'assurance, de moyens, etc.
Oui, puis à l'époque, il n'y avait pas d'hélicoptère.
Alors, c'est là où on va avoir finalement recours à ce moyen-là, en ultime recours, finalement, comme les guides ne s'engagent pas totalement, que la pression monte avec les médias qui sont présents à Chamonix, parce que Vincent Henry, on est au bout de 6, 7, 8, 9 jours de disparition, et là, ils réapparaissent. C'est ce qu'il faut quand même mentionner, c'est qu'au bout du 9e jour, Vincent Henry et Henri apparaissent sur une barre de Sérac à la vue de tout Chamonix, vivants. Toujours titubant, un debout, un à genoux, a priori à la longue vue, les gendarmes de la brigade de Chamonix les observent, le gendarme Pelin, il y a tout un tas de gens qui les observent, et en fait les médias commencent à dire « Pourquoi vous voulez les abandonner là-haut, ces jeunes alpinistes ? Il faut faire quelque chose ?» Donc la pression monte localement, le maire, le sous-préfet, et on décide de se retourner vers l'armée, et l'armée dit, voilà, nous, on ne va pas y aller à pied. La caravane de Lionel Terré a essayé à pied, ça n'a pas fonctionné. Donc la seule solution, c'est d'engager un hélicoptère.
Qui va finalement se crasher.
Alors cet hélicoptère, il arrive d'Aix-les-Bains. Il y a une base à côté du Bourget du Lac, la base de l'armée de l'air. Donc ils envoient deux hélicoptères, des Sikorsky, donc c'est des hélicoptères qui viennent d'Indochine, d'Algérie, qui sont adaptés au transport de troupes, transport de soldats, mais qui n'ont jamais servi en altitude. Donc,
et les pilotes non plus.
Alors, les pilotes non plus. Donc là, c'est le commandant Santini qui est à bord, l'adjudant Blanc qui est son mécanicien. Et en fait, ils vont se retrouver encore deux jours bloqués par le brouillard à Sallanches. Et donc, ça va repousser au 11e jour la capacité à faire l'opération de secours. Et à ce moment-là, la pression, elle est maximale. Donc, le pilote, il se retrouve avec une attente énorme sur ses épaules parce qu'effectivement, tout le monde espère qu'il va pouvoir faire le secours. La pression médiatique, des autorités, militaires, civiles, etc. Donc, quand il peut décoller, en fait, il monte vers le grand plateau. Et là, personne ne comprend, mais il arrive à fond avec l'hélicoptère. Il n'arrive pas à redresser. Et il se crache à côté de Vincent de Henry, juste à quelques mètres. Et par miracle, l'hélicoptère se fait un cul par-dessus tête, se retourne, et les quatre qui sont à bord, c'est-à-dire le pilote Santini, l'adjudant Blanc, et les deux guides militaires qui sont à bord, dont Honoré Bonnet, hein, ancien patron des équipes de France de ski, sortent indemnes. C'est un miracle, hein, un crash d'hélicoptère, souvent ça se passe très mal, sortent de l'hélicoptère. Et en fait, Honoré Bonnet avait reçu d'un journaliste, Gosseau, un petit appareil photo, et il lui avait dit « si tu peux photographier un petit peu le secours ». Et quand Honoré Bonnet sort, il prend cette photo incroyable.
Qui a fait la une de Paris Match.
Qui a fait la une de Paris Match, mais surtout, pour moi, qui est l'emblème absolu de la survie en montagne, parce qu'on a cette photo de Vincent de Henry après 11 jours aéré à plus de 4 minutes d'altitude. Ils sont complètement gelés, les jambes sont gelées jusqu'au bas-ventre, complètement dures. Hein, Honoré Bonnet touche ces jambes-là, les avant-bras au-delà des coudes, mais il continue à parler, à se projeter, à rêver. Et en fait, on a cette discussion surréaliste avec Honoré Bonnet et l'ensemble des personnes autour. Et là, il y a une décision à prendre de nouveau. Qu'est-ce qu'on fait? On a deux pilotes, enfin un pilote, un mécanicien qui sont en tenue de vol à plus de 4000. On est dans l'après-midi.
En mocassin.
Voilà, quasiment. et donc, il y a Vincent de Henry qui sont complètement gelés, qui ne peuvent pas se déplacer, il faut les porter.
Et qui vont mourir. Enfin, il en est assez conscient.
Ils en ont conscience. Honoré Bonnet le dit a posteriori. Il sent bien que c'est un peu la fin pour eux. Mais donc, il y a ce choix qui est d'une cruauté terrible, hein, qui est un moment dans l'histoire d'un homme. Et d'ailleurs, ni Gilbert Chapaz, ni Honoré Bonnet n'ont bien vécu cette décision de devoir choisir. Et donc, ils prennent en charge le pilote et le mécanicien, donc Santini et Blanc, et ils mettent dans la carlingue de l'hélicoptère Vincent de Henry. Et ce qui est peut-être le plus important de cette histoire, c'est qu'au moment où ils les mettent dans la carlingue, ils leur promettent de revenir les chercher. Ça, c'est cette promesse qui est pour moi la promesse inaboutie, parce que la suite, c'est simple. Hein, ils vont emmener Santini et Blanc jusqu'au refuge Valo, et là, une décision va être prise d'arrêter le secours. Le jour d'après, donc finalement, personne n'ira chercher Vincent de Henry. Ils vont mourir abandonnés tous dans la carlingue de l'hélicoptère Sikorsky. Et on viendra les chercher au mois de mars, dans une caravane de secours un peu décalée, enfin voilà, pour essayer de... Mais qui ne réparera jamais, finalement,
cet abandon.
Ce manquement au principe de solidarité. Et l'affaire Vincent de Henry, c'est avant tout une question de manquement à une obligation supérieure de solidarité, qui fait qu'on doit aller jusqu'au bout, et qu'en raison de risques objectifs relativement forts qu'on renonce. Mais pas pour des raisons politiques, pas pour des raisons... indirect qui serait...
Organisationnel.
Voilà, organisationnel. C'est absolument impensable, effectivement, de dire « je n'y vais pas parce qu'on n'a pas la ressource en hommes ou en moyens », ce qui était un peu la question à ce moment-là. Et bilan, ce que n'avait pas anticipé peut-être la communauté montagnarde, c'est que l'opinion publique française, dès le mois de janvier, va en faire un vrai débat. Un débat fondamental en disant comment peut-on laisser deux jeunes de 20 ans mourir à la vue de Chamonix en pleine période de vacances scolaires.
Oui, puisqu'il y avait 200 journalistes, hein, je crois, qui étaient présents dans la vallée de Chamonix et qui ont suivi presque aux jumelles, à la longue vue, quoi, l'agonie.
À la fois la télé, ça a été la radio, ça a été vraiment médiatisé comme jamais. On a toutes les images, en fait, de cette opération. Et la pression, elle touche toute l'opinion publique française. Et on est aussi dans l'effet de résonance par rapport à Annapurna. L'Annapurna, quelques années avant, j'en ai à peine 6 ans après cette réussite qui a redonné des couleurs à la France, la victoire sur ce sommet de plus de 8000 mètres. Et là, on a la montagne qui raconte l'histoire la plus laide, finalement, qu'elle peut produire, qui est un manque de solidarité. Et donc, quelques mois après, il y a des commissions qui sont réunies. Et on se dit, voilà, maintenant, il faut professionnaliser l'organisation du secours en montagne. Et on crée le premier groupe spécialisé de haute montagne, donc le GSHM, ancêtre du PGHM, donc des agents à Chamonix qui met en place une petite équipe de 12 bonhommes à Chamonix pour être dédié 100% à la mission de secours et éviter.
Et il n'y a plus le tour de rôle entre guide, militaire.
Alors, il y a une petite temps de transition, ça va prendre quelques années avant d'installer complètement le nouveau système, mais rapidement, ça va se mettre en place, ça va se finaliser en quelques années. Et les autres organisations, compagnies des guides, écoles militaires, etc., viennent en soutien de l'unité de gendarmerie qui est créée à ce moment-là.
Donc il reste un mystère quand même dans cette histoire, puisque moi je n'arrive pas à comprendre pourquoi, une fois que Bonatti arrive à sortir sa propre cordée, la cordée formée par Vincent Don et Henri au col de la Brinve, pourquoi ils décident de se séparer?
Alors c'est une question qui m'intrigue depuis des années et des années. Et j'ai trouvé, il y a 2-3 ans, une lettre du client de Bonatti qui en parle, en fait, de ce moment-là, et qui lui-même n'a pas totalement compris. Et ça fait peut-être partie des seules tâches au palmarès de Bonatti, qui est un peu inexcusable, peut-être, quand on est assis au chaud, etc., mais qu'on doit remettre en contexte des années 50, où lui, il est guide, il a son client. Il a déjà aidé Vincent Noé et Henri à sortir. Est-ce qu'il y a eu une éclaircie au col de la Brinve qui fait qu'ils ont cru qu'ils n'allaient pas être dans le brouillard et que chacun reprenait son rythme et ils se sont reséparés? Mais je ne pense pas qu'il y ait eu l'intention de la part de Bonatti d'abandonner Vincent Noé et Henri. C'est juste qu'ils ont décidé de se reséparer, de marcher
à
leur rythme. En revanche, ils avaient tous convenu qu'ils passeraient par le sommet du Mont Blanc et non pas par les pentes qui vont vers les corridors et le Grand Plateau, repasser par le sommet du Mont-Blanc pour aller au refuge Valo. Et cette décision, elle a toujours été validée historiquement. Entre guillemets. Tout le monde n'a jamais personne n'a remis en question ce choix qui a été fait et partagé avec Vincent Noé-Henri. En revanche, les cordées se séparent, Bonatti va arriver jusqu'au sommet du Mont-Blanc et descendre à Valo, et c'est là où on perd la cordée Vincent Noé-Henri. Et on pourrait réécrire l'histoire en disant, mais si Bonatti avait gardé le contrôle de la cordée, les avait gardés en cordée, Vincent Noé-Henri n'aurait pas été du tout en difficulté, probablement. Donc c'est sûr que ça fait partie à la fois des mystères, et la lettre du client qui a été publiée il n'y a pas très longtemps laisse penser quand même que ça reste un moment difficile à assumer a posteriori pour Bonatti, et même son client d'ailleurs, qui en a parlé, parce qu'ils ont eu ce sentiment de culpabilité.
Merci Blaise.
Merci.
Learn from Altitude, un podcast produit par Mountain Pass et réalisé par Globule Radio. Scénario, Jessica Compois. Mixage, Kirstine McKenzie.
À découvrir.
L'ouvrage illustré, Une histoire du secours en montagne, imprimé aux éditions Glénat.